je propose de partir de l'idée que d'un petit outillage, si vous voulez, énonciatif de base, pour traiter de n'importe quel discours, mais plus particulièrement du discours littéraire, il faut partir d'un certain nombre d'instances qui sont fondamentales en l'affaire. Donc, je laisserai de côté le sujet parlant, et je voudrais insister ici sur le fait que on a besoin de s'intéresser d'une part au locuteur et d'autre part à l'énonciateur. Alors, il y a toute une tradition qui, pendant longtemps, a considéré que ces termes étaient interchangeables. On retrouve ça, y compris, par exemple, il se trouve qu'actuellement, je suis en train d'écrire quelque chose pour l'analyse du texte de théâtre, et y compris la terminologie même de double énonciation chez Cabrat et Recioni renvoie à ce plaquage de l'énonciateur sur le locuteur. C'est la même chose. Or, je crois qu'il faut distinguer, et là-dessus, je m'appuierai sur essentiellement les travaux de Ducrot 1984, sans entrer trop dans les détails ici. Bon, vous voyez ce que j'indique, mais au fond, il me semble que ce qui est fondamental, c'est de distinguer le locuteur qui est le producteur de l'énoncé de l'énonciateur qui est l'instance qui prend en charge cet énoncé. On pourrait rappeler l'analyse de Bailly du sujet modal, même si ça n'est pas totalement la même chose, mais qui est assez proche de cela, ou encore chez Cuglioli, l'instance qui prend charge des opérations de qualification, de modélisation. Donc, il est évident que, et c'est ce qui explique la confusion à laquelle je faisais allusion précédemment, il est évident que, dans la plupart des cas, à chaque fois que le locuteur adhère à ce qu'il dit, il est dans le même temps énonciateur du point de vue de son énoncé. Et donc, en gros, bien sûr, dans les énoncés monologiques, il y a ce syncrétisme-là. Mais il faut distinguer les cas qui sont plus fréquents que le monologisme, c'est en tout cas ce que je crois très fortement, où les énoncés sont dialogiques. Et là, dans les énoncés dialogiques, deux cas de figure, soit les points de vue renvoient au locuteur, soit ils renvoient à une instance différente du locuteur. Alors ça peut être un deuxième locuteur, L2, enchâssé, cité, etc. C'est le cas, évidemment, du discours rapporté classique, mais ça peut être aussi une instance qui n'est pas un locuteur parce que ça n'est pas un énoncé embrayé. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un concept nouveau qui est ce concept d'énonciateur, c'est-à-dire à chaque fois que le locuteur exprime un point de vue qui n'est pas le sien, qui n'est pas énoncé dans un énoncé embrayé. C'est le cas des mentions éco-ironiques. C'est le cas du discours indirect libre, le plus classique. Le discours indirect libre, c'est un point de vue qui est rapporté par le locuteur citant, mais qui renvoie au point de vue d'un énonciateur, mais qui n'est pas locuteur au même titre que le locuteur d'un discours indirect ou, à pas plus forte raison, d'un discours direct. Alors, c'est le cas également de ce que j'ai analysé sous la terminologie du point de vue représenté dans les contextes narratifs à la troisième personne, puisque dans ce cas-là, je considère qu'il y a là quelque chose qui relève d'un point de vue d'un énonciateur, dans ce que Benfield disait être une phrase sans parole, et qui ne relève pas d'un énoncé embrayé. Donc, je crois profondément à la pertinence de cette distinction entre locuteur et énonciateur. Je crois que c'est la base, et c'est quelque chose qui est fondamental pour l'analyse des récits, mais qui est fondamental pour l'analyse de n'importe quelle interaction orale, écrite, etc. Et ce que je voudrais faire entendre, c'est que, mais très rapidement ici, mais ça a une importance évidemment pour la narratologie, je considère que le locuteur que j'appelle L1, c'est vraiment le locuteur, je l'appelle 1 parce que c'est le locuteur citant, c'est le locuteur premier. Et donc, et évidemment, s'il adhère à un point de vue, ce sera L1/E1. Bon, et le locuteur cité, c'est L2. avec un petit L et un numéro 2 qui indique une subordination. Alors, dans cette représentation, je prends l'exact contre-pied des travaux, par exemple, de Cuglioli, n'est-ce pas ? Précisément parce qu'il me semble que dans la représentation de Cuglioli, en tout cas dans la théorie de Cuglioli, il y a une représentation non dite, mais qui est très forte, enfin ce qui m'en a semblé un dernier colloque auquel j'ai assisté sur le discours indirect libre, où il y avait énormément d'anglicistes, c'est l'idée que la situation donc citée était la situation originelle, originaire, et au fond, ils entérinent une représentation assez vériste, mimétique du discours rapporté. Moi, je suis aux antipodes de cette représentation. D'ailleurs, je parle plutôt de discours représenté que de discours rapporté. Bien évidemment, il y a des phénomènes de rapport avec tous les phénomènes de concordance, de changement déictique, mais ces changements précisément renvoient à L1. Et tous les phénomènes de modalisation sont pris en compte pour l'essentiel par L1, dès lors qu'ils ne sont pas marqués. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que, et sur le plan de la DX6 et sur le plan des enjeux pragmatiques, le discours rapporté est un discours représenté, y compris dans le discours direct, un discours représenté qui renvoie aux fins propres du discours du locuteur citant. Il découle de cela que lorsque on analyse des relations entre L1 et L2, E1 et E2, on peut penser qu'il y a des relations de responsabilité et de non-responsabilité si ces relations sont explicites. C'est le cas lorsque on a un discours rapporté direct ou indirect. Et de consonance ou de dissonance, là, c'est une terminologie que j'emploie à Dorit Cohn, lorsque ces liens sont implicites. Alors, il est clair que cette question se pose au premier chef pour l'analyse de textes narratologiques à la troisième personne, lorsque le narrateur est très discret, et encore plus, évidemment, pour les textes de théâtre tels que ceux sur lesquels j'ai travaillé actuellement. En tout cas, cette distinction, donc locuteur-énonciateur, on peut en mesurer la pertinence à propos des exemples 1, 2 et 3. Bon, ce sont des exemples évidemment ressassés, mais je les prends à dessein, ça paraîtra dans le numéro qui va paraître là de travaux de linguistique chez Duculot, donc le numéro 46, le premier volume. Voyez, Œdipe fut part de ses projets aux citoyennes de Thèbes, il allait épouser sa mère, donc discours indirect libre, et on voit bien que sa mère, évidemment, renvoie à un point de vue qui est celui du locuteur citant, qui n'est pas celui d'Œdipe. Il est très difficile d'imaginer, évidemment, qu'Œdipe ait dit « je vais épouser ma mère hein, ». Il a dit « je vais épouser Jocaste, je vais épouser, etc. etc. » Bien. En deux, on peut renforcer, exhiber ce point de vue qui est celui du locuteur citant. Il allait épouser le malheureux, celle qu'il ne savait pas être sa mère. Alors évidemment, quand on joue sur un syntagme nominal avec un possessif, lorsqu'on joue sur une négation, ça fait émerger des phénomènes de point de vue, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais quand on alors ça, ce sont des exemples qui sont bien sûr allégués par les grammaires. Mais quand on regarde l'exemple 3 que j'ai créé, qu'on ne retrouve pas dans les grammaires, mais dont on trouve à satiété des exemples dans les textes littéraires, comme dans des interactions orales les plus banales. Enfin, il est arrivé de regarder le corpus d'un collègue de Lyon 2, Bruno Martini, qui avait enregistré des clochards qu'il enregistrait quand on les récupérait le soir pour les emmener à Nanterre. Alors, vous voyez, c'est du discours indirect, plein de discours indirects libres, pas spécialement littéraire, et avec énormément de phénomènes de ce type. Alors, donc, Œdipe fit part de ses projets, il allait épouser cette malheureuse Jocaste. Alors, bon, ça, je renvoie aussi à un débat que j'ai avec Rivera sur cette question, mais cette malheureuse Jocaste, on pourrait toujours penser, mais c'est le point de vue de L1. En réalité, c'est possible, mais l'énoncé ici me semble très, très ambigu. Mais en tout cas, on va considérer qu'on, par défaut que c'est celui de L1, mais si on regarde les paraphrases 3A et 3B, on peut s'apercevoir que cette valeur modale donc accolée à cette malheureuse Jocaste, elle peut renvoyer d'une part à un point de vue qui serait celui de E2 Oedipe, c'est le point de vue 3B, n'est-ce pas, puisque malheureuse ici est reformulée, reparaphrasée par le discours direct qui suit, et il est évident que ça pourrait aussi renvoyer à une paraphrase différente qui désambiguiserait l'énoncé 3 en clarifiant la situation et en renvoyant uniquement au point de vue du locuteur L1. Donc, en gros, 3 renvoie du point de vue d'une modalisation sur Jocaste par défaut au point de vue de L1, mais il serait, alors évidemment, décontextualisé. Quand on s'arrête qu'à cette phrase, comme on le fait dans les grammaires, on peut dire ça s'arrête à L1. Sauf que dans les textes, ça ne s'arrête jamais à L1, ça ne s'arrête jamais à cette phrase. Et on voit que, en réalité, ce qui compte, c'est le contexte élargi. Et le contexte élargi peut montrer que, en discours indirect libre, la modalisation peut renvoyer soit à L1, soit à 1. Une instance qui est un énonciateur, qui ne dit rien à proprement parler, il n'y a pas de discours embrayé qui renvoie au point de vue de Oedipe, mais qui exprime néanmoins ce point de vue. Voilà. Donc ça, c'est le cadre énonciatif général par lequel j'essaie d'analyser le point de vue. Alors, j'entre maintenant, si vous voulez, dans les travaux qui ont été les miens il y a 5 ans à peu près, sur le point de vue, donc dans mes deux bouquins, quand j'ai analysé ce que j'appelais à l'époque le point de vue représenté. C'était l'époque où j'étais quand même dans une phase un peu... Quand j'étais petit et narratologue, enfin, comme pour paraphraser Hugo, quoi, c'était l'époque où j'étais quand même encore assez imprégné d'un modèle dont je voulais me distancier, mais je n'avais pas toujours les outils linguistiques pour prendre cette distance. Et en tout cas, à l'époque, donc, j'ai analysé le point de vue d'une manière qui n'est plus tout à fait celle qui est la mienne aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai essayé d'analyser des perceptions. Et je l'ai fait parce que, tout simplement, par rapport à Genette, qui disait, pour repérer le point de vue, il faut chercher qui voit, ou disait-il qui sait, ça me semblait tellement à géométrie variable, ces reformulations, puis qui sait, ouvrant sur tellement de choses différentes. Et puis quand on lisait Genette, il y avait peu de marques, et il y avait sinon pour la focalisation interne à certains moments des phénomènes qui relevaient plutôt du discours indirect libre. Je me disais, il faut essayer, si on suit Genette dans sa distinction entre le mode et la voix, de vraiment distinguer une manifestation du point de vue qui peut s'exprimer dans du discours rapporté de ce qui s'exprime dans la voix d'un narrateur, et tout particulièrement, évidemment, il m'a semblé que c'était pertinent de le faire en s'intéressant au récit à la troisième personne, et pour objectiver bien cette distinction mode-voix, et à partir du moment-là, j'ai essayé de contraindre l'analyse en m'intéressant à la manière dont le point de vue qui, dans la langue courante, renvoie soit à l'expression d'une opinion, mais aussi à une perspective, vu cavalière sur un objet, donc comment ces perceptions pouvaient être exprimées linguistiquement. Donc, j'ai essayé à ce moment-là de proposer une structure du point de vue représenté. Cette structure, c'est une structure virtuelle, c'est-à-dire au fond X pour le sujet, verbe de perception, ou en tout cas procès de perception. Le plus souvent, c'est un verbe, mais ça peut être un autre mot de la langue. Et puis P pour proposition. Encore une fois, c'est une structure virtuelle, c'est-à-dire que la langue ne manifeste pas toujours cet ordre, mais c'est une structure plutôt cognitive, un peu comme le schéma quinaire ou ternaire du récit est une structure virtuelle, c'est-à-dire que la mise en mots peut commencer par la fin, etc. Eh bien là, on peut faire un certain nombre d'ellipses, nous y reviendrons tout à l'heure. En tout cas, donc, je me suis intéressé d'abord au point de vue représenté. De quoi s'agit-il ? Alors, très rapidement, là-bas, au bas de la première page, j'ai indiqué dans l'encadré un certain nombre de paramètres qui me semblaient essentiels pour rendre compte du phénomène du discours, du point de vue représenté. Alors, je vais essayer de les mettre en musique en regardant donc les exemples 7 et 8. Donc, je vous laisse peut-être lire ces exemples 7 et 8 et comparer avec les paraphrases 7a et 8a. Le rythme, ça va ou trop, c'est trop lent, trop vite ou...
c'est bien.
Ça va.
Vous avez eu le temps de dire ? Oui. Alors, pourquoi parler de point de vue représenté ? Précisément, c'est ce que montre la différence entre les exemples originaux et puis 7A, 8A, puisque, au fond, 7A et 8A renvoient à des éléments qui, en tout cas, surtout 7A, renvoient donc à une perception. Mais cette perception n'est pas développée. Et donc, la notion de point de vue représenté renvoie à une certaine mise en ordre linguistique de la perception qui donc apparente le point de vue à un phénomène dialogique qui le rend assez proche du phénomène du discours représenté. En effet, première marque, c'est ce que je dirais une opposition entre le premier plan et le second plan. Donc, en gros, ici, je renvoie aux travaux de Leboeuf, Combette, etc., sur l'opposition premier plan, deuxième plan. Le premier plan, on le dira par convention, ce qui est plutôt objectif, fondé sur le temps prototypique du passé simple, qui renvoie à l'ordre, qui renvoie aux événements en adoptant dans le récit l'ordre des faits tels qu'ils sont censés s'être passés dans la réalité extralinguistique. Et puis, il y a un deuxième plan qui est le temps du commentaire, le temps des proleps ou des analeps chronologiques, des commentaires ou des descriptions à valeur commentative, qui ne suit pas ce déroulement chronologique du temps. Et je dis que cette opposition des plans construit un débrayage énonciatif, mais un débrayage énonciatif minimal, moindre que le débrayage énonciatif qu'on trouve lorsque on a une inclusion de discours direct dans le discours du narrateur. Évidemment, moindre encore que ce qu'on observe dans le discours indirect libre. Deuxième marque, c'est l'emploi, le plus souvent, mais pas toujours, comme on le verra dans les exemples qui suivent, d'un temps qui est le temps prototypique du deuxième plan, à savoir l'imparfait. Cet imparfait a une valeur de réexpérientiation, une valeur mémorielle, une valeur si vous voulez, d'Amourette et Pichon parlent de valeur toncale de ce temps, Guillaume d'une valeur subjective ou intrasubjective, et en tout cas la théorie de la pertinence parle d'une valeur interprétative. Ça indique, je crois, une saisie subjective, et ici une saisie subjective par un acteur de l'énoncé qui est l'énonciateur, à savoir le personnage Chauvieux en 7, le personnage de Milan en 8, donc un personnage qui ne dit rien et auquel, malgré tout, on va faire référer la perception qui est en italique dans les exemples 7 et 8. Troisième ensemble de marques, ce sont des marques qui relèvent ici plus du sujet modal dans la référenciation, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre l'exemple 8, Et ça n'est pas du tout la même chose de parler de jeune villageois ou de garçon de village. Je crois qu'en choisissant de dire garçon de village, je crois que le locuteur veut insister sur le point de vue du personnage Milan, qui est un citadin, une réincarnation de Don Juan, un point de vue qui est donc tout à fait méprisant pour ces gars de la campagne qui sont quand même très rustiques et qui ont un art de la drague pas très raffiné à ses yeux de citadin. Et on voit encore, au fond, que cette différence, elle rejaille également sur la caractérisation des filles, puisque ce sont seulement les garçons qui bénéficient, si l'on peut dire, du sème de la ruralité. Et puis, il est évident que ce point de vue ne s'exprime pas simplement par le lexique, ça s'exprime également par un vocabulaire grammatical. Je renvoie ici aux anaphores définies, ou plutôt aux syntagmes nominaux avec un article défini, alors qu'il s'agit dans le contexte d'une première mention. Donc normalement, on devrait avoir un. Et en réalité, je crois que ça indique, du point de vue de l'énonciateur qui est à l'origine du point de vue, un comportement qui est saisi comme typique d'une pratique rurale, paysanne, de la drague. Donc, de ce point de vue, on voit que avec le discordantiel énonciatif, avec la référenciation, choix du lexique pour les mots de sens plein ou choix du lexique pour les mots grammaticaux, on a des éléments qui indiquent bien que la scène est appréhendée à partir d'un énonciateur qui est ici le focalisateur, pour le dire en termes genétiens, l'énonciateur du point de vue dans cette phrase sans parole. Et enfin, quatrième marque, c'est un rapport donc sémantique de type anaphorique méronomique, c'est-à-dire au fond une relation de type partie-tout. C'est le plus souvent cela, ça peut être de type fait-commentaire, etc. Et ici, on voit que, au fond, toute cette scène pourrait se réduire à une perception qui apprendait comme un tout dans le premier plan. On pourrait dire, c'est l'hyperonyme, si on voulait donner un titre, flânerie d'un citadin à la campagne. Et puis, ça va se décliner en description qui pointe sur des détails en relation donc hyponymique avec ce tout et qui renvoie à la place, à la grande rue, aux signes des jeunes hommes, des femmes, etc. Donc, je crois que ces deux exemples montrent une perception représentée, c'est-à-dire que la perception n'est pas simplement prédiquée dans un premier plan, il n'y a pas simplement un verbe de perception, il y a ensuite une perception qui se déroule dans ses composantes. Et cela montre que la perception, ici, n'est jamais purement inintentionnelle, qui n'est jamais déconnectée de procès mentaux. Et donc, cela montre d'emblée la difficulté qu'il y aurait à établir une frontière étanche entre, d'une part, des perceptions pures, et d'autre part, des pensées pures, ou, vous voyez, telles qu'on pourrait l'imaginer dans une représentation, par exemple, du discours indirect libre, qui se cantonnerait dans ou du discours pur, discours indirect libre illocutoire, ou des pensées pures. En réalité, ici, le point de vue cumule le plus souvent de la perception surchargée de mécanismes plus ou moins intentionnels, plus ou moins cognitifs. Ça dépend d'abord du fait de savoir si la perception était intentionnelle ou pas, et ça dépend bien évidemment ensuite de la référenciation. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette structure du point de vue, c'était une structure virtuelle. En effet, on peut imaginer des cas dans lesquels on va faire l'ellipse d'un certain nombre de composants de cette structure. Alors, en gros, il me semble assez difficile de faire l'ellipse des propositions P qui consistent dans la référenciation de ce qui est perçu. En revanche, cette référenciation peut être plus ou moins économique, on y reviendra, c'est-à-dire plus ou moins saturée de traces de subjectivité ou pas, oui. Mais en gros, on peut parfois faire l'ellipse du verbe de perception, ou en tout cas du procès de perception, et on peut même faire l'ellipse du sujet. Et regardons les exemples 10, 11, 12, donc sous la rubrique « Gradualité de l'effacement énonciatif ». Donc l'exemple 10 est seul paraphrase, enfin s'explique de la même manière que les exemples précédents. Nous avons une opposition premier plan, deuxième plan, nous avons un verbe de perception, et nous avons, alors cette fois-ci avec un présent plutôt qu'un imparfait, ce qui, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je peux le dire d'emblée, apparente le point de vue plutôt de phénomène de discours direct libre, tandis qu'avec l'imparfait, le point de vue est très proche du discours direct libre, pour autant que le discours indirect libre, dans ce contexte, soit le discours indirect libre à la troisième personne, bien sûr. Et en revanche, dans l'exemple 11, vous voyez qu'il n'y a plus de verbe de perception. En revanche, il y a toujours la mention d'un sujet saillant en contexte. Et donc, nous avons ensuite une perception, et en l'absence de verbe de perception, il faut faire l'inférence que c'est le sujet qui est dans le contexte, en situation propice pour percevoir, qui perçoit. Donc, premier phénomène d'effacement, lorsque nous avons ainsi l'effacement du verbe. Deuxième effacement, lorsque on a un effacement et du verbe et du sujet, c'est l'exemple 12. L'intellectuel a enlevé sa chemise, sa chair est blanche, c'est de la viande de femme. Donc un petit extrait d'un roman de Jean-Louis Borry qui renvoie à la guerre de 1939-45. Il me semble qu'ici, on a un point de vue qui est exprimé au moins dans « c'est de la viande de femme ». Le présentatif, le présent, le choix des termes, enfin, « c'est de la viande de femme », enfin, très dépréciatif, évidemment construit l'axiologie très anti-intellectuelle de celui qui va prendre en charge cet énoncé, qui n'est pas le narrateur, le locuteur-narrateur. C'est donc un personnage. Alors, il est évident qu'en contexte, on ne se trompe pas trop, mais malgré tout, ce personnage n'est pas, dans le contexte élargi, n'est pas immédiatement perceptible. Mais en réalité, on peut considérer que le point de vue émerge avant « c'est de la viande de femme », puisque au fond c'est une prédication, mais le cadre même de prédication, savoir « sa chair est blanche », est déjà terriblement dépréciatif. Hein, parler de quelqu'un, de la peau de quelqu'un, du teint, en parlant « chair hein, », c'est vraiment en congruence avec « c'est de la viande ». Et donc, et on pourrait remonter, y compris dans la voix du locuteur premier narrateur, l'intellectuel a enlevé sa chemise, alors que dans le récit, cet intellectuel a un nom, hein, qui est prénommé, nommé. Et ici, renvoyé à ce personnage par une dénomination qui renvoie à son métier, un terme très générique, l'anaphore définie ici, est très méprisant. Donc c'est au fond, d'emblée dans la voix ici, du locuteur-narrateur, L1, que nous avons, et avant même la prédication, c'est de la viande de femme, nous avons d'emblée des traces d'un point de vue qui est celui d'un énonciateur second, qui n'est pas le point de vue du locuteur-énonciateur du roman. Et il, ce que ce, cet exemple nous dit en plus, c'est qu'on a là un effacement qui est encore plus fort que l'exemple 11, puisque on a un effacement du point de vue de l'instance 2, qui n'est pas nommée. Il n'y a pas de, vous voyez, de verbe de perception ou de verbe de pensée, ou enfin quelque chose qui nous ferait dire que le personnage E2 se dit bien quelque chose d'aussi désagréable que ce qu'il dit. Mais il y a un deuxième effacement qui affecte cette fois-ci non plus simplement L2 qui devient un E2, mais vraiment pur et plus effacé que le E2 de l'exemple 10 ou de l'exemple 8 ou de l'exemple 7, mais il y a même un effacement de L1. Puisque, au fond, théoriquement, on peut considérer que... c'est une règle en principe. Par défaut, ces règles-là, par défaut, il faut s'en méfier, mais par défaut, s'il n'y a pas de manifestation de distance, ça veut dire que celui qui cite adhère ou authentifie. Et donc la question qui se pose et qui a de l'importance, par exemple, pour l'interprétation du roman, c'est ce que pense L1. Effectivement, ici, c'est un point de vue scandaleux qui est rapporté sans distanciation de ce point de vue scandaleux. Et donc, évidemment, tous les textes qui rapportent des points de vue scandaleux posent problème pour le plan de l'interprétation, que ce soit Céline, que ce soit Marcel Aimé, que ce soit Nab, que ce soit Renaud Camus, etc. Vous voyez, encore que bon, Camus est un peu différent, ce ne sont pas des romans. Bon, donc il y a véritablement un problème. Et ce problème est encore plus important pour l'interprétation littéraire si on remonte et qu'on ne se cantonne plus simplement à savoir ce que peut penser le locuteur, mais le sujet parlant, c'est-à-dire Jean-Louis Bory, dont on sait qu'en plus il était homosexuel, qu'il fut un militant de la fierté homosexuelle, etc. Bon, alors ça c'était sur la fin de sa vie, dans les années 50, je ne crois pas qu'il était sur cette ligne-là, mais en tout cas ça pose véritablement des problèmes quand on a interprétatif, quand on a ces types donc d'estompage de la prise en charge énonciative. Bon, donc au fond ici, ce phénomène d'effacement énonciatif renvoie à des stratégies par lesquelles, dans un énoncé narratif, l'instance à l'origine du point de vue est plus ou moins discrète. Il est évident qu'il y a bien d'autres phénomènes d'effacement énonciatif, que ce soit dans les énoncés impersonnels, bien sûr, avec l'énonciation théorique. Mais on voit que on peut avoir un gradient dans l'effacement énonciatif, soit par exemple en choisissant l'énonciation historique, qui est déjà un phénomène d'effacement par rapport à l'énonciation personnelle, mais à la condition bien évidemment d'avoir une énonciation historique qui repose non seulement sur un marquage anaphorique, mais encore repose sur une discrétion la plus grande possible, parce que ça n'est jamais possible de faire totalement abstraction du sujet pensant, de la subjectivité du locuteur, mais une discrétion la plus grande possible du sujet modal. Alors, lorsqu'on a une énonciation historique objectivante, on a ce phénomène d'effacement énonciatif, et on peut évidemment imaginer également des énonciations personnelles qui reposent sur un ancrage déictique très fort, mais dans lequel le sujet modal est relativement discret. Donc on a là encore des gradients, bien évidemment. Alors, je pense que j'aurai le temps de revenir là-dessus, mais j'en profite pour vous dire que, pour l'instant, je travaille et je vais prendre des exemples sur d'énoncés narratifs à la troisième personne, mais il est clair que le cadre théorique que j'ai donné au préalable est pertinent pour rendre compte du phénomène de point de vue dans les énoncés à la première personne, puisque la distinction locuteur-énonciateur est pleinement pertinente dans ce cadre-là, bien sûr, j'y reviendrai. Bien, alors, très rapidement maintenant, parce que je ne pense pas que ce soit les questions les plus importantes, mais malgré tout c'est important d'un point de vue linguistique, si on accepte cette idée que le point de vue repose donc sur des phénomènes d'effacement. Et de toute façon, d'effacement par rapport au marquage de point de vue dans un énoncé embrayé, à partir de ce moment-là, la question qui se pose, bien évidemment, c'est celle du marquage linguistique. Alors, j'ai évidemment donné quelques traces, mais ça ne saurait suffire. Et donc, c'est la question des marques ouvrantes et des marques fermantes du point de vue. Et c'est une question difficile, c'est une question qui avait déjà beaucoup agité Bailly à propos du discours indirect libre. Il y a toute une nomenclature de listes hein, chez Bailly, 1912-1914. Et donc, très rapidement, je voudrais lister quelques marques en disant que il en va du point de vue représenté comme du discours indirect libre, c'est-à-dire qu'on a parfois des marques ouvrantes. On n'est pas toujours sûr que ça commence là où je le disais. À l'exemple 12, l'intellectuel a enlevé sa chemise, montre bien qu'on peut se poser la question de savoir où commence la marque ouvrante. Hein, c'est déjà compliqué. Et bon, on a parfois des marques ouvrantes, mais on n'a pas toujours de marques fermantes. Et puis, il y a des marques, notamment, je pense aux présentatifs, je renvoie en biblio à deux articles que j'ai écrits sur les présentatifs, où les présentatifs peuvent jouer le rôle de marques ouvrantes, de marques fermantes, voire de marques à l'intérieur du point de vue pour scander des étapes perceptives et cognitives dans la perception. Donc, en gros, première marque est une des certainement les plus convaincantes, même si c'est les plus discutables, c'est le discordantiel énonciatif que j'évoquais tout à l'heure avec l'opposition premier plan, second plan. C'est celle d'ailleurs qu'évoquait aussi Bailly. Sinon, bien évidemment, on peut avoir, alors on a ça, c'est parfois très scolaire, on a un marquage du début du mouvement perceptif et de la fin du processus perceptif avec un verbe. Alors chez Zola, on a parfois ça, c'est même très scolaire, il regarda, et puis à la fin, il ferma la fenêtre, si tant est qu'il soit à la fenêtre pour regarder. Vous voyez, on a hein, ce genre de situation. On peut avoir, évidemment, un nom qui renvoie à une activité perceptuelle, comme dans l'exemple 90. Vous voyez, le spectacle n'était guère réjouissant. Alors, on peut avoir un nom de ce type en symbole, en signe, pardon, d'ouverture de perception, et ce nom peut réapparaître, ou un équivalent, en fin de séquence. Et puis sinon, bien sûr, on peut avoir d'autres phénomènes de marquage qui sont plus complexes. Je pense, évidemment, à des phénomènes de brouillage. Et la question, c'est de savoir si ces phénomènes de brouillage remettent en cause le discordantiel énonciatif avec l'opposition des plans. C'est quelque chose qu'on trouve, en tout cas dans la littérature moderne, pour l'exemple 30, en bas de la page 2, à savoir lorsque le récit est un récit au présent. On est d'accord ? Donc je vous laisse le lire. Bien. Alors, je crois que, comme l'indiquent les petites permutations et transpositions entre crochets, je crois que, au fond, le fait qu'on ait un récit au présent peut brouiller. Hein, c'est un phénomène bien connu de brouillage, comme le récit en jeu peut brouiller un certain nombre de pistes. Mais malgré tout, le brouillage joue avec une convention. Et avec du marquage conventionnel en langue. Et le fait que tout ne soit pas possible, c'est-à-dire que certains verbes de présent puissent permuter avec des imparfaits, et que d'autres ne puissent permuter qu'avec des passés simples, montre que les verbes n'ont pas la même valeur aspectuelle. Il est évident qu'il y a parfois doute, et à partir de ce moment-là, évidemment, le doute va avoir des répercussions sur la part de premier plan et de second plan dans le récit et au fond, la représentation de plus ou moins grande laissée à la subjectivité dans ce récit. C'est un phénomène bien connu des traducteurs. notamment dans les langues où il n'y a pas d'opposition passé simple et imparfait. Et quand on passe au français, on se met à choisir. Et il est évident qu'il y a des traductions très différentes de ce point de vue-là. Mais ici, en tout cas, la suite présent-présent permet malgré tout de distinguer des présents qui construisent un premier plan et d'autres présents qui relèvent davantage du commentaire et qui relèvent davantage de l'expression d'un point de vue. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai emprunté à mon bouquin de 98. Et c'est un exemple que je donne là, mais dont je ne suis pas très fier, parce qu'au fond, c'est un peu naïf comme représentation. Et je suis, dans ce bouquin de 98, un peu confus sur cette question-là. Enfin, s'il y avait que c'est là-dessus, ce serait peut-être le moindre mal, mais enfin, en tout cas, là, c'est assez confus. C'est-à-dire que j'y reviens à plusieurs reprises, c'est la preuve d'un malaise. Je pensais, en 98, tout en disant qu'il y avait des contre-exemples assez forts, je pensais que le premier plan était plutôt objectif et que c'était dans le second plan qu'il y avait des traces de points de vue et de points de vue représentés. Enfin, ça a tout l'air d'une la palissade, et en tout cas, évidemment, je voulais tellement analyser ce point de vue représenté que tout ce qui renvoyait à des amorces de point de vue dans le premier plan, c'était pas que je ne le voyais pas, mais je laissais cela de côté et je disais qu'il y avait simplement des amorces de point de vue dans le premier plan. Des amorces. Pourquoi amorce ? Parce que, tout simplement, ça demandait à être ensuite déroulé, commenté dans le deuxième plan pour qu'on puisse véritablement dire qu'il y a point de vue. Bon, c'est pas totalement faux, mais dans le même temps, c'est bien qu'il y a des récits qui sont purement, enfin quasiment purement, ils sont pas très longs, mais il existe des récits qui ne reposent que sur du premier plan, quasiment sur du premier plan, avec très peu de second plan. Mais il y a malgré tout des points de vue. Donc, dans ces conditions, parler d'amorce, c'est vrai que le point de vue est embryonnaire dans le premier plan par rapport à un point de vue développé dans le second plan, mais il y a malgré tout un point de vue dans le premier plan. Et au fond, cet exemple ici le montre. Donc, ça renvoie vraiment à une époque où j'ai tellement voulu essayer de fonder ce point de vue représenté que j'ai sous-estimé des phénomènes d'émergence du point de vue dans d'autres contextes. Bon, deuxième exemple qui pourrait brouiller les pistes, c'est l'exemple 10, où vous avez là des suites imparfait-imparfait. Mais vous voyez que dans cet exemple 10, malgré les imparfaits, il y a néanmoins un plus que parfait initial qui sert de borne temporelle, de marquage du premier plan. Et puis, pour le reste, tous les imparfaits ne se valent pas. C'est un peu la même chose que ce que j'ai dit sur les présents. Tous les présents ne se valent pas. Ici, il y a un premier imparfait, regardez, qui va installer Emma en sujet regardant, hein, sous la portée d'ailleurs du plus que parfait initial. Et puis, il est évident qu'ensuite, nous avons d'autres imparfaits en italique et qui vont constituer, cette fois-ci, l'expression du point de vue d'Emma. Donc, on a un imparfait initial qui a un aspect séquent, bien sûr, qui va ouvrir un espace à l'intérieur duquel le procès de perception peut se dérouler, et donc ce qui explique aussi quelque part la dimension très durative en relation avec le contexte, c'est-à-dire qu'Emma rêve, etc. Si vous voulez, on a l'impression vraiment ici d'une perception in progress et d'une perception durative et contemplative. Il n'empêche que donc il faut bien distinguer entre un imparfait de cadrage perceptuel et puis ensuite des imparfaits qui sont davantage consacrés à l'expression du point de vue dans leur valeur commentative. Troisième exemple, l'exemple 11 confirme cela. Nous avons un plus que parfait Et puis nous avons ensuite des interfaits qui renvoient à la posture de l'énonciateur ici revers en sujet regardant, et puis ensuite toute la dimension à point de vue classique est en italique. Et je crois que ça permet de faire une distinction, me semble-t-il. C'est que dans les exemples précédents, lorsqu'on a le verbe de perception au passé simple, et ensuite la représentation de l'objet perçu à l'imparfait, il semble que les perceptions et les pensées qui leur sont associées relèvent d'une activité perceptuelle, intellectuelle, qui est directement sous la portée donc du mouvement de perception au passé simple, et donc que cette perception relève d'une intentionnalité assez forte, qui serait marquée par la forme du passé simple et par sa valeur aspectuelle, sa visée globale. En revanche, il me semble qu'avec l'enchaînement verbe de perception à l'imparfait, plus objet perçu à l'imparfait, la perception paraît moins intentionnelle, ou à tout le moins, il me semble qu'elle parte de l'objet pour remonter vers le sujet, comme si le sujet se mettait pour être un sujet regardant dans une situation propice à regarder, comme s'il se laissait envahir par les choses, ce que dirait peut-être cet imparfait, si vous voulez. Donc il y a là toujours un procès actif, mais malgré tout, ça n'est pas la même chose. En tout cas, bon, il faudrait le vérifier sur d'autres exemples, mais il me semble que malgré tout, ce qui est fondamental, c'est toujours de distinguer les valeurs de ces temps. Sinon, on a d'autres marqueurs qui indiquent des phénomènes de point de vue. Ça relève par exemple de la chaîne anaphorique. Dans les exemples de... Vous voyez, les exemples... dernière chose encore. L'exemple 13 qui suit. Je vous laisse prendre le temps de le regarder parce que... Et puis, regardez également l'exemple 14. Bien. Ici, nous avons véritablement des récits, des énoncés avec passé simple. Et il me semble que là, si vous voulez, l'exemple 13, Marie entra dans le bureau du président, une copie du président du budget tomba sur de son bureau, le téléphone sonna, le fax délivra un nombre respectable de feuillets, bref, la routine. On a là des passés simples. Dans le même temps, ces passés simples ne sont pas des formes de visée globale qui correspondent à la construction du premier plan tel que je l'ai annoncé précédemment. C'est-à-dire que dans la construction du premier plan, les formes ne peuvent pas permuter. Le procès de la proposition 1 précède le procès de la proposition 2 qui précède le procès de la proposition 3, etc. Ici, les événements pourraient permuter et ils sont relativement concomitants. De sorte que nous avons là des passés simples qui n'ont pas tous la même valeur. Le premier a une visée globale évidente, mais les autres passés simples relèvent d'une saisie. Et le problème, c'est quel est le point de vue ? Eh bien, là encore, on va dire, c'est un point de vue de l'énonciateur qui est en situation saillante. C'est-à-dire le personnage, il y en a bien, hein. N'y en aurait-il pas qu'on dirait qu'il y a bien un point de vue, mais c'est celui du locuteur premier, c'est-à-dire du narrateur. Et donc ici, c'est un point de vue que je n'avais pas analysé dans mon bouquin de 98, que j'ai appelé dans un article de 2000 de la lecture littéraire et puis dans Poétique 126, le point de vue raconté, qui n'est pas forcément une très bonne dénomination, ou un point de vue embryonnaire. Et en tout cas, un point de vue qui s'exprime dans le premier plan, et évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux formes de la réflexivité, aux formes d'expression de la subjectivité, qui est plus économique, plus objectivant que s'il y avait tout un passage de second plan. Même chose en 14, hein, tout sauter en arrière, quelque chose ronfla, puis éclata sur le pavé comme une calebasse. C'était le poste de radio. On voit là qu'on a les deux registres du point de vue, les deux modalités du point de vue, c'est-à-dire que quelque chose ronfla, puis éclata sur le pavé comme une calebasse, dans le premier plan, émerge déjà sous une forme embryonnaire, un point de vue, hein, quelque chose ronfla, etc. Et puis on a ensuite une forme avec le poste de radio qui relève d'un point de vue représenté, de sorte que lorsqu'on rencontre des perceptions, bien, de la même manière que dans les paroles, on peut passer du discours direct au discours indirect, au discours narrativisé, eh bien, on peut passer du point de vue, du point de vue raconté au point de vue représenté, etc. Autre phénomène de marquage, donc rapidement, je vais accélérer là-dessus, les exemples de H, de I, de J, de K, vous voyez, de H, Marie entra dans le bureau du président, sur le bureau du président, une copie du budget attira son regard, alors cette fois-ci, l'élément de marquage, mais intra, on n'est plus dans une marque de bornage en dehors de celle que j'évoquais précédemment, mais ici, c'est le syntagme, donc avec précédé de l'adjectif possessif, son regard, et donc ici, on a un point de vue raconté, un point de vue embryonnaire, de Marie, hein, raconté embryonnaire, puisqu'il n'y a pas d'aspectualisation dans le deuxième plan. En 2i, en revanche, le texte dit presque la même chose, mais on mentionne une copie du budget attirait le regard. Donc ici, on a évidemment l'imparfait, plus une anaphore définie. Donc, soit on peut analyser, évidemment, l'imparfait plaide en faveur d'un point de vue représenté qui serait le point de vue représenté de Marie, et le, en revanche, plaide plutôt pour un point de vue représenté qui serait peut-être celui du narrateur. Mais de toute façon, dans tout ce que j'ai dit, et si vous vous rappelez donc mon tableau introductif sur les liens sémantiques, le point de vue est celui de l'énonciateur, et à partir du moment où il n'y a pas de distanciation, en gros, on laisse entendre que le locuteur premier, entérine comme vrai au moins la perception, sans forcément reprendre à son compte les points de vue et les contenus propositionnels, comme l'indiquent évidemment des énoncés aussi problématiques que celui de Jean-Louis Bory. Exemple suivant, de J, donc ici c'est un point de vue évidemment, puisqu'on a deux marques tout à fait congruentes, l'imparfait plus l'adjectif possessif, point de vue représenté de Marie, et en deux cas en revanche, une copie du budget attirer le regard, mais elle ne voulut pas le laisser paraître, nous avons, en dépit du fait que nous ayons le regard, compte tenu de l'imparfait, compte tenu de la suite, mais elle ne voulut pas le laisser paraître, un point de vue de représenté de Marie. Donc, autre forme, autre marque du point de vue, les connecteurs ou les marqueurs temporels qui avaient été analysés voilà, bien longtemps déjà, hein, puisque je cite un exemple de Ducrot dans son article de 80, donc des connecteurs et puis ensuite éventuellement des marqueurs temporels, je vous renvoie aux deux articles qui sont en référence sur ces questions-là en 99 et en 2001, qui peuvent être donc l'indice de l'existence d'un point de vue. Bien, vous avez d'autres traces, lexique, présentatif, négation, je passe. J'en viens assez rapidement à quelque chose qui relève du point de vue et de la polyphonie, pour essayer de faire un premier bilan sur ces questions-là. Donc, point de vue et polyphonie. Donc, voyez que une des thèses les plus fréquentes que j'évoquais relativement au discours indirect libre, c'est que le point de vue s'apparente au fond au discours indirect libre. Le point de vue, pardon, est différent du discours indirect libre. Je voudrais l'exemplifier en bas de la page 4 et de la page 5 par deux exemples de discours indirects qui, évidemment, montrent là toute la, le fossé entre point de vue et discours indirect libre. Bien. Alors, évidemment, ce sont des exemples qui sont presque trop beaux pour être vrais. C'est-à-dire que l'exemple 1 renvoie à un discours indirect libre locutoire et l'exemple 2 renvoie à un discours indirect libre qui exprime des pensées. Et dans les deux cas, ces discours...
J'ai perdu, là, je ne sais plus où vous en êtes.
Je suis page 4 et 5, le dernier exemple de la page 4, sous la rubrique « Point de vue et polyphonie ». Je vous en prie. Donc, je disais l'exemple 1, discours indirect libre locutoire, et exemple 2, discours indirect libre qui renvoie à des pensées. Et dans les deux cas, ces discours indirects libres sont tout à fait déconnectés des perceptions. Alors, sur le plan des mécanismes, qui sont mises en œuvre dans le discours indirect libre par rapport aux mécanismes que j'évoquais dans le point de vue représenté, ce sont à peu près les mêmes. Hein, les marques sont les mêmes. La différence est une différence ici sémantique, c'est-à-dire que si on se base sur une représentation très étroite du discours indirect libre comme report de parole, il y a certains théoriciens qui excluent le report de pensée. Il est évident que, d'un point de vue purement sémantique, pas en regardant les phénomènes syntaxiques mis en œuvre, ce sont des phénomènes différents, puisque moi, ce que j'évoquais, c'était des perceptions. Là, on a des paroles. S'il s'agit de penser, on a évidemment, avec l'exemple 2, une activité donc purement consacrée à des procès mentaux. On n'a pas de perception. On a des exemples de ce type. Ce qui est frappant, c'est quand on regarde dans la littérature consacrée au discours indirect libre, aux formes complexes du discours indirect libre, elle mêle souvent paroles, pensées, plus autre chose que cela, ce sont souvent des perceptions. Et donc, évidemment, si on a une définition très étroite du discours indirect libre, on élimine tout ce qui n'est pas parole ou pensée. Mais en réalité, et regardez l'exemple 4, on va s'apercevoir que très souvent, dans les textes, on a des procès perceptifs mêlés à des pensées. On l'a déjà vu précédemment, mais alors là, c'est évidemment encore plus fort que dans les exemples précédents. Et puis, ça peut évidemment se concrétiser ensuite par des formes de discours directs ou de discours indirects. Ou de discours narrativisés qui renvoient à des paroles. Donc dans l'exemple 4, je vous laisse prendre le temps de le lire parce qu'il est assez complexe. Donc l'exemple de Semprun.